Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 9 juillet 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Poursuite du procès pour la présumée tentative de coup d'État du 19 mai à Kinshasa. Au Mali, un proche du premier ministre Cheguel Kokala Maïga a été condamné hier à un an de prison ferme. L'OTAN se réunit ce mardi pour un sommet de 3 jours à Washington DC. Dans notre partie magazine, après la création de la Confédération des États du Sahel, la CEDEAO a prévenu que la région risque la désintégration.
Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, poursuite du procès pour la présumée tentative de coup d'État du 19 mai à Kinshasa. Un troisième Américain a rejeté hier la responsabilité de leur aventure sur le chef présumé du commando mort durant l'opération. Le point avec Eddie Isango.
L'Américain Tyler Thompson, 22 ans, est le troisième à comparaître dans ses procès débutés le 7 juin dernier au tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. « J'ai été forcé de porter une arme », a-t-il déclaré hier à la prison militaire de haute sécurité Andolo à Kinshasa. Avant lui, ses deux autres compatriotes ont également tout rejeté sur le leader du groupe, Christian Malanga, abattu par les services de sécurité pendant l'opération et présenté comme le cerveau de la tentative du coup d'État. Tyler Thompson a soutenu s'être rendu à Kinshasa pour une visite à la famille de Marcel Malanga, fils du défunt leader du groupe, et a nié avoir fait une formation militaire. Le ministère public a rejeté cette version de la contrainte et a souligné que le rôle de M. Thompson a été celui des pourvoyeurs des drones à la bande. La prochaine audience est prévue vendredi. 51 personnes sont jugées dans cette affaire. Le 19 mai dernier, plusieurs dizaines d'hommes ont attaqué à Kinshasa les domiciles du ministre sortant de l'économie, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale, avant d'investir les palais de la nation, abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi. Les faits reprochés aux accusés sont passibles de la peine de mort, selon le tribunal militaire.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, après avoir été nommé facilitateur par la CEDEAO, évoque la nécessité de l'apaisement et du dialogue avec les États sahéliens qui ont fait sécession du bloc ouest africain. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Notre responsabilité, c'est de travailler à rapprocher les positions, à les réconcilier, à faire en sorte qu'il puisse y avoir une plage de dialogue, a jugé le chef de l'État sénégalais, appelé à mener des pourparlers avec les trois pays en collaboration avec son homologue togolais Fornia Simbe. Au Mali, un proche du premier ministre Cheguel Kokala Maïga a été condamné lundi à un an de prison ferme après avoir signé un document ouvertement critique de la junte au pouvoir. Le point avec Dili Diko.
Boubacar Traoré a été placé en détention le 28 mai après la publication d'un communiqué s'opposant fermement à un éventuel maintien des militaires au pouvoir pendant plusieurs années supplémentaires. Monsieur Traoré est signataire de ce document émanant de la faction du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques restées fidèles au premier ministre civil Cheguel Kokala Maïga. Cette publication passait pour être susceptible de consommer la rupture entre le Premier ministre et les militaires qui l'ont nommé. Il a endossé le contenu du communiqué incriminé, mais reste pour l'instant à la tête du gouvernement. Boubacar Traoré a été condamné par le pôle de lutte contre la cybercriminalité du tribunal de Bamako pour atteinte au crédit de l'État, diffusion de propos mensongers de nature à perturber la paix publique et outrage à magistrats. Il est la dernière personnalité arrêtée ou condamnée pour avoir critiqué la junte. 10 opposants ont été écroués le 24 juin pour complot contre les autorités légales après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir.
En Gambie, les députés ont approuvé lundi un rapport soutenant l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015, avant un vote final prévu fin juillet sur la levée éventuelle de cette interdiction. Le point avec Michel Joseph.
Les députés gambiens ont voté en mars dernier pour l'examen du texte par une commission parlementaire. La commission a présenté hier ses conclusions et recommande de maintenir la loi de 2015 et d'interdire la circoncision féminine sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de mutilation génitale ou d'excision. Après un débat houleux qui a dégénéré en cris et en coups de poing, 35 députés ont voté en faveur du rapport, 17 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Les avocats de la levée de l'interdiction font valoir que l'excision est une pratique enracinée dans les croyances traditionnelles de la majorité des Gambiens et qu'elle est soutenue par l'islam. La mutilation génitale féminine n'est pas islamique, selon la commission qui dit avoir interrogé des érudits musulmans, 150 experts et témoins, dont des personnes qui ont subi ces mutilations. En Gambie, selon l'UNICEF, 73% des femmes et des filles de 15 à 49 ans ont subi cette pratique.
Au moins 100 personnes ont été enlevées la semaine dernière dans des régions instables de l'Éthiopie qui ont connu des combats sporadiques depuis la fin de la guerre civile dans le Tigré, a déclaré hier l'ambassadeur des États-Unis à Addis Abeba. Ces enlèvements ont été perpétrés contre rançon. Plus de détails avec Nani Talani.
Parmi les personnes enlevées se trouvent des étudiants et des passagers, précise l'ambassadeur des États-Unis, Erwin Masinga. Les récents et fréquents enlèvements dans les régions d'Oromia et d'Amara montrent comment un conflit prolongé enhardit les criminels et affaiblit l'état de droit, a-t-il écrit sur le réseau social X. Mercredi, 3 bus ont été arrêtés par des hommes armés inconnus au nord d'Addis Abeba, a témoigné sous anonymat un étudiant de l'université de débarque qui s'est ensuite échappé. Les ravisseurs demandent aux familles de payer jusqu'à 17 000 dollars pour libérer les captifs, a-t-il déclaré. Selon lui, les assaillants parlaient l'oromo et avaient la même coiffure que les combattants de l'armée de libération oromo. La sœur d'un autre étudiant a affirmé que le groupe avait demandé 8 700 dollars pour leur libération. Asmama Osegei, président de l'université de débarque, a confirmé l'incident mais n'a pas donné plus de détails. Les porte-paroles de l'OLA, de l'administration locale d'Oromia et du gouvernement central n'ont pas encore réagi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN se réunit ce mardi pour un sommet de 3 jours à Washington DC pour célébrer son 75e anniversaire et renforcer son soutien à l'Ukraine. Le point avec Lionel Gahim.
Le secrétaire américain de la Défense, Lloyd Austin, a reçu hier au Pentagone le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dont il a salué le leadership et souligné l'importance du sommet de Washington.
Nous nous appuyons sur le progrès réalisé lors du sommet précédent et nous avons montré au monde que l'OTAN est plus forte, plus grande et plus unie que jamais.
Stoltenberg a félicité les États-Unis pour la mobilisation du soutien à l'Ukraine et a condamné les attaques de missiles russes contre les villes ukrainiennes qui ont tué des civils, dont des enfants, pas plus tard qu'hier, lundi. Les alliés ont maintenant confié les rênes de l'OTAN à l'ancien premier ministre néerlandais Mark Rutte, qui va remplacer Stoltenberg en octobre. Enfin, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est vedé de cette réunion, mais ne va pas participer au sommet à quelques mois de la présidentielle américaine. L'ombre de l'ancien président Donald Trump va certainement planer sur cette rencontre.
Le président américain Joe Biden demande aux élus démocrates réunis à Washington pour une nouvelle session parlementaire de se rassembler autour de sa candidature, fragilisée par son débat raté face à son rival républicain Donald Trump il y a 10 jours. En dépit des spéculations dans la presse et ailleurs, je suis fermement décidé à rester en course, et a écrit le président démocrate dans une lettre adressée hier aux parlementaires de son parti. Tout manque de discernement sur la tâche qui nous attend ne ferait qu'aider Donald Trump, ajoute le président Biden. Pour sa part, Donald Trump a estimé hier que Joe Biden pourrait bien rester candidat à la présidentielle malgré les pressions dans le camp démocrate pour qu'il se retire en raison de doutes sur sa forme physique. Il me semble qu'il pourrait bien rester dans la course et il a un ego et ne veut pas abandonner, a déclaré l'ex-président républicain dans une interview à Fox News. Après avoir traversé les Caraïbes, la tempête Beryl a touché hier le Texas, charriant de fortes pluies qui ont provoqué inondations, des coupures de courant et causé la mort d'au moins 5 personnes dans le sud des États-Unis. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La dette du Nigeria envers ses fournisseurs d'essence a dépassé les 6 milliards de dollars, doublant depuis début avril, alors que la compagnie pétrolière nationale se bat pour combler l'écart entre les prix fixes à la pompe et les coûts internationaux des carburants. Selon les négociants, la ENPC n'a toujours pas payé certaines importations de janvier, alors qu'elle est censée payer dans les 90 jours suivant la livraison. Le nouveau ministre sud-africain de l'énergie s'est engagé lundi à accélérer le passage du charbon aux énergies renouvelables, rompant ainsi avec son prédécesseur qui s'opposait à une décarbonisation rapide. En raison de sa dépendance à l'égard des centrales électriques au charbon gérées par l'entreprise publique Eskom, l'Afrique du Sud figure parmi les 15 premiers émetteurs de gaz à effet de serre au monde. Pour terminer, la Namibie, confrontée à sa pire sécheresse depuis plus d'un siècle, veut commencer à construire sa deuxième usine de dessalement d'une capacité d'environ 20 millions de mètres cubes qui devrait être opérationnelle en janvier 2025, a déclaré le ministère de l'Agriculture, de l'Eau et de la Réforme agraire. La Namibie fait face à une demande accrue en eau à cause d'une recrudescence des activités d'exploration et des acquisitions dans l'uranium, dont elle est le troisième producteur mondial.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Les supporters des Aigles du Mali craignent que les éliminatoires de la CAN ne se fassent sur fond de crise.
Et oui, ce parce que depuis le renvoi du sélectionneur Eric Sékouchel, la Fédération malienne de football ne s'est pas encore prononcée sur le recrutement d'un nouveau sélectionneur, alors que les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sont programmées pour septembre prochain, après le tirage au sort le 4 juillet dernier. Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako, nous en dit plus.
Même si Alou Badra Diallo Di Conti, adjoint à l'ancien sélectionneur des Aigles du Mali, est de fait celui qui doit assurer l'intérim, le comité exécutif de la Fédération malienne de football n'a pas encore communiqué sur la question. En attendant, c'est l'un des sujets qui alimente les causeries du public sportif malien. Un public qui s'impatiente car veut être édifié sur le recrutement des nouvel entraîneurs. Pour l'instant, Alou Badra Diallo, non moins sélectionneur principal des U20, est concentré sur les préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024 qui s'ouvrent le 26 juillet prochain, compétition à laquelle le Mali y prendra part. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Les demi-finales de l'Euro 2024 débutent aujourd'hui.
L'équipe de France, si décevante dans le jeu mais dotée d'une défense de fer, s'attaque à un immense défi à Munich où l'attend l'impressionnante Espagne et sa formidable armada offensive. Ce duel franco-espagnol va donner lieu à une véritable opposition de style. D'un côté, des Bleus qui ont enchaîné des prestations ternes et n'ont tenu que grâce à la solidité de leur arrière-garde. Et de l'autre, une Rora au jeu flamboyant tombeuse de l'Allemagne. Le pays hôte en huitième de finale, 2-1 après prolongation. L'autre demi-finale va opposer demain mercredi l'Angleterre aux Pays-Bas.
En basketball, la Grèce, l'Espagne, le Brésil et Porto Rico qualifiés pour les Jeux Olympiques.
Porto Rico a rejoint la Grèce, l'Espagne et le Brésil dans la liste des derniers qualifiés pour le tournoi de basket des JO de Paris. En battant la Lituanie 79-68 à San Juan, les Porto-Ricains retrouvent les Jeux pour la première fois depuis 2004 à Athènes. Victorieux en demi-finale de la Slovénie de Luka Doncic, 96-68, les Grecs ont confirmé en finale au Pirée face à la Croatie, 80-69, pour décrocher de leur côté leur première participation aux JO depuis 2008. À Valence, la Hora, championne d'Europe en titre, a décroché une 7e qualification olympique de rang en dominant les Bahamas en finale 86-78.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunie en sommet dimanche au Nigeria, a prévenu que la région risquait la désintégration après la création par les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la Confédération des États sahéliens. Les trois pays l'ont annoncé samedi à Niamey lors de leur premier sommet, tenu comme défi la veille de celui de la CEDEAO après leur décision plus tôt cette année de quitter l'organisation ouest-africaine d'Abuja, la capitale nigériane. Le reportage de notre correspondant Gilbert Tamba.
Les dirigeants de la CEDEAO réunis en sommet à Abuja ont pris acte de la décision prise la veille à Niamey portant création de la Confédération des États du Sahel. Pour le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, ce divorce pourrait avoir des conséquences si les trois pays ne reviennent pas sur leurs décisions.
Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Plus spécifiquement, le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité, notamment en termes de partage de renseignements.
Le financement des projets économiques d'une valeur de plus de 500 millions de dollars au Burkina Faso, au Mali et au Niger pourrait également être arrêté ou suspendu. Le président nigérian Bola Tinubu a souligné la nécessité de nouveaux partenariats pour surmonter les défis politiques, économiques et sécuritaires auxquels la région ouest-africaine est confrontée.
We are aware of the enormous.
Nous sommes conscients des énormes défis, notamment les activités terroristes et de l'extrémisme violent qui menacent de se propager de la région du Sahel vers les États côtiers, en particulier ceux qui ont été témoins de changements de gouvernement anticonstitutionnels.
Présent à Abuja, le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité a exprimé le soutien de son organisation à la CEDEAO, Bankole Adeoye.
The African Union is indeed very proud of ECOWAS.
L'Union africaine est très fière de la CEDEAO. Nous plaidons pour une communauté unie, nous plaidons et nous soutenons pleinement l'unité de la CEDEAO. Le retrait de trois pays est inacceptable pour l'Union africaine et nous croyons en une CEDEAO.
Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été nommé médiateur entre la CEDEAO et les dirigeants des trois pays du Sahel qui se retirent du bloc économique. Les références de M. Faye ont été présentées comme possédant la capacité de servir de facilitateur dans une mission qui devrait être confrontée à des défis importants en raison des tensions régionales. L'un de ses mandats est de faciliter le dialogue entre le bloc et les voisins du Sahel pour tenter de les ramener au sein de l'organisation sous-régionale. Samedi, les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont transformé leur alliance en une confédération. Et leur action constitue une menace majeure pour la stabilité du bloc régional ouest-africain. Le président nigérian Ahmed Bola Tinubu a été reconduit à la tête de la CEDEAO. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le grand jour de l'extrême droite n'est pas encore arrivé en France. Contre toute attente, le nouveau Front populaire a créé la surprise ce dimanche en devenant le premier parti de l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national de Jordan Bardella et de Marine Le Pen occupe finalement la troisième place derrière la coalition présidentielle. Le barrage républicain contre l'extrême droite a donc été suivi. Pour une analyse, John Lindon a joint la politologue Anne-Charlène Bézina, maîtresse de conférences en droit public à Paris.
On en est arrivé là par ce qu'on appelle en France le front républicain, c'est-à-dire que les partis qui sont hostiles aux idées du Rassemblement national, eh bien, se sont coalisés en quelque sorte. Il y a eu des désistements des candidats qui auraient pu être troisième pour justement empêcher en quelque sorte une victoire de majorité absolue de ce parti. Et finalement, il s'est passé quelque chose d'inédit dans toute l'histoire de notre 5e République. Eh bien, on a inversé les résultats avec ce Front républicain. Les électeurs ont vraiment voté en masse contre ce parti. Les voix se sont très bien reportées et il y a eu en fait un effet de masse contre les idées de ce parti. Donc voilà ce qu'il y a vraiment expliquer qu'on puisse changer l'issue du premier au deuxième tour. Et puis on a aussi une manière de voter à l'Assemblée nationale qui est différente par rapport à des systèmes où on a de la représentation proportionnelle en Europe, par exemple en Allemagne ou en Italie, où nous, notre mode de scrutin va très vite déformer un peu les gagnants gagnent plus. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce jeu des trois blocs que nous avons aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Ça va être sûrement difficile de gouverner sans faire des coalitions parce qu'on a trois grands blocs qui se font face et un gagnant, qui est la gauche, mais qui aura du mal à ne pas être renversé par ses opposants.
Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un nouveau gouvernement. Comment peuvent s'opérer les négociations? Emmanuel Macron a déjà refusé ce lundi la démission de Gabriel Attal.
Oui, alors un nouveau gouvernement, il y aura forcément. Mais il a refusé la démission de Gabriel Attal, peut-être parce que le parti gagnant de la gauche n'est pas encore tout à fait prêt. Donc j'ai le sentiment qu'on est plutôt dans une période de transition, mais immanquablement, il y aura un nouveau gouvernement parce que c'est important. Les nationales, dont le régime parlementaire que nous avons, reconnaissent la légitimité du gouvernement. Sinon, elle le renversera.
Et quelles pourraient être justement les priorités du prochain gouvernement ?
Elle risque d'être très difficile à négocier parce que la gauche a un programme qui économiquement ne met pas du tout d'accord le reste de l'Assemblée nationale. Donc si nous avons un gouvernement de gauche, il y a fort à craindre que l'instabilité de l'Assemblée nationale fasse qu'il puisse tout à fait ne pas durer très longtemps. Donc on ne sait pas vraiment quelles seront les priorités du prochain gouvernement parce que il faudra arriver à essayer d'éviter d'être renversé. Ça sera ça le plus difficile.
Anne-Charlène Bézina, politologue et maîtresse de conférence en droit public à Paris. Le nouveau Front populaire a donc défait le Rassemblement national lors de ce second tour des législatives en France. Le RN a obtenu moins de sièges que ce que laissait présager ses scores au soir du premier tour. L'issue du scrutin était très attendue sur le continent africain, avec une crainte élevée de l'arrivée à Matignon du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. À Libreville, quelques observateurs célèbrent une autre victoire, celle de la franco-gabonaise Danielle Obono, réélue au premier tour sous la bannière de la France insoumise. Je vous propose d'écouter ce micro-trottoir réalisé par Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Le Rassemblement national avait puisé donc ses réserves de voix et que les Français, ne voulant plus porter donc le parti d'Emmanuel Macron donc au pouvoir, devraient nécessairement voter pour le nouveau Front populaire qui, lui, a l'avantage d'avoir des thèmes qui rassemblent plutôt que ceux qui divisent.
Et qu'est-ce que ça va changer dans les rapports France-Gabon, par exemple?
Oui, bon, en tout cas, nous, du côté du Gabon, nous suivons très bien cette élection, ce d'autant que nous avons une Gabonaise, une binationale, Danielle Obono, qui a été réélue donc députée. Et en ce qui concerne donc les relations entre la France et le Gabon, en réalité, on va dire les gouvernements de gauche, notamment, n'ont pas de problème avec les anciennes colonies. Et je pense que les rapports France-Gabon devraient être au beau fixe.
On devrait avoir des rapports plus équilibrés dans les rapports de la France et de l'Afrique, parce que bon, aujourd'hui, ces rapports ont toujours été en faveur de la France. Et il est évident que le monde changeant aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Il faut qu'il y ait une plus grande place réservée à l'Afrique dans le concert des nations et faire en sorte que les Africains puissent effectivement bénéficier des richesses de leur sol et qu'il y ait en France une politique qui soit mise en place pour que l'Afrique puisse émerger.
Alors, est-ce que vous êtes surpris de la défaite du Rassemblement national que tout le monde voyait aux portes du pouvoir ?
Non, je ne suis pas surpris. Moi, je savais très bien qu'ils allaient être battus. Déjà hier, quand on a vu les élections dans les métropoles, et on a vu comment est-ce qu'ils ont été battus là-bas, moi j'étais certain qu'ils allaient être battus, parce que les idées qu'ils défendent sont des idées qui doivent être mises à la poubelle pour toujours.
Même une opportunité pour l'Afrique et les Africains, qu'il y ait en France des gouvernants qui, s'ils mettaient en pratique leurs propos de rupture avec tout ce qui a été dénoncé jusqu'alors de France-Afrique, cela nous obligerait, nous Africains, à prendre nos responsabilités. Cela obligerait les dirigeants africains un peu timorés à clarifier par ailleurs leurs relations avec la France. Pour nous, c'est une opportunité. Nous n'avons rien à craindre. Les Français défendent leurs intérêts. C'est à nous, par ailleurs, de défendre les nôtres. Pourquoi en aurais-je peur? Pas du tout.
Les jours qui viennent pourraient être déterminants pour la candidature du président américain Joe Biden au scrutin présidentiel de novembre, car des voix s'élèvent pour qu'il quitte la course à la Maison-Blanche en raison des inquiétudes sur son âge et sa capacité à diriger. Cependant, il bénéficie du soutien de nombre de ses pairs, même s'ils reconnaissent les craintes des électeurs démocrates. Le reportage de Veronica Balderas Iglesias de la VOA, relaté par Nani Talani.
Le président américain Joe Biden s'est adressé à une foule de partisans dimanche lors d'un service religieux à Philadelphie, dans l'État de Pennsylvanie. Il a parlé de ses réalisations alors que les inquiétudes sur son âge et sa capacité à diriger ne cessent de croître. Suite à sa piètre performance lors du récent débat, le président n'a fait que redoubler sa détermination à rester dans la course à la présidence. Il a clairement exprimé sa position lors d'une interview exclusive avec George Stephanopoulos, présentateur d'ABC News, vendredi.
Je ne pense pas que quelqu'un soit plus qualifié que moi pour être président ou gagner cette course.
Joe Biden bénéficie toujours d'un large soutien de ses pairs, mais les inquiétudes des électeurs grandissent et ont été reconnues par le sénateur démocrate Chris Murphy, qui a participé dimanche à l'émission « L'État de l'Union » de CNN.
Il ne s'agit pas de questions sur son caractère ou sa décence, ni sur les personnes dont il se soucie, pour lesquelles il se bat, mais des questions sur le fait de savoir s'il s'agit toujours de l'ancien Joe Biden.
La décision de quitter ou non la course à la présidence appartient à Joe Biden, a déclaré le représentant démocrate Adam Schiff lors de l'émission « Meet the Press » de la chaîne NBC, soulignant qu'elle sera déterminante pour l'élection générale.
Joe Biden va devoir se demander dans son propre intérêt et pour son propre héritage s'il peut battre Donald Trump. Est-il le meilleur pour battre Donald Trump? Mais aussi l'impact profond que cette décision, peut-être la plus importante de sa présidence, aura sur la Chambre, sur le Sénat, sur l'avenir du pays.
Samedi, Donald Trump s'est rendu sur sa plateforme Truth Social et a écrit, je cite, Joe Biden devrait ignorer ses nombreux détracteurs et aller de l'avant avec empressement et force, avec sa campagne puissante et de grande envergure. Fin de citation. Alors que les gros titres se sont concentrés sur Biden, le choix du vice-président de Trump pourrait voler la vedette s'il est annoncé cette semaine. Le sénateur républicain Vance fait partie des candidats envisagés pour le poste. Il a été interviewé dimanche sur NBC.
Il y a beaucoup de bonnes personnes parmi lesquelles il pourrait choisir. Ce sont les politiques qui ont fonctionné et le style de leadership qui a fonctionné pour le peuple américain. Je pense que nous devons ramener cela à la Maison-Blanche.
L'attention du président Joe Biden se tournera vers le sommet de l'OTAN qu'il accueille à Washington à partir de ce mardi, tandis que Donald Trump est attendu à Doral en Floride et à Butler en Pennsylvanie cette semaine.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezello. À la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.